BPM.
Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 8e circonscription viennent répondre à nos questions et nous accueillons ce matin Benjamin Lucas, candidat de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Benjamin Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 31 ans, vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France, vous avez été porte-parole de Yannick Jadot lors des présidentielles. Alors première question, pourquoi vous présentez-vous dans les Yvelines?
Pour être député, pour être un député au service du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, pour être un député qui défend la transition écologique, vous l'avez dit, je suis un écologiste aussi, pour être un député qui se bat pour les droits sociaux qui ont été abîmés par Emmanuel Macron et qui construit une république qui respecte les citoyennes et les citoyens. C'est le moment où on choisit nos députés, où on choisit une majorité. Moi, je veux être dans une majorité conduite par Jean-Luc Mélenchon pour qu'on change la vie dans ce pays. C'est la raison de ma candidature et c'est la raison pour laquelle je m'engage pour être député et que nous ayons la majorité.
Pourquoi pas dans les Hauts-de-France?
Parce qu'il s'est avéré que nous avons un accord, un rassemblement historique de la gauche et des écologistes qu'on m'a proposé de mener le combat. Parce que si on veut gagner, si on veut avoir une majorité, il faut que des circonscriptions qui étaient à droite basculent à gauche. Celle-ci en fait partie et je mène ce combat avec grand plaisir. Et je serai, je l'espère, je m'y engage, un député fidèle à ce territoire et à celles et ceux qui m'auront élu.
Alors que pensez-vous de l'élection d'Emmanuel Macron?
Elle s'est faite par défaut. Monsieur Macron a bénéficié d'un vote de rejet de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Je me réjouis que notre pays ne se livre pas à l'extrême droite, qui développe un certain nombre de thèses racistes, de division et de haine dans le pays. Et donc, nous n'avons pas eu de vrai débat dans l'élection présidentielle, puisqu'il s'est agi d'éliminer plus que de choisir. Et là, nous avons, avec les législatives, l'occasion d'un troisième tour et l'occasion d'un vrai choix de société. Il y a trois blocs. Il y a l'extrême droite, il y a le bloc de droite LR, LREM avec Emmanuel Macron à sa tête. Et puis, il y a nous, la gauche et les écologistes rassemblés avec Jean-Luc Mélenchon pour un programme autour de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis un an, une inflation galopante, plus 5,2% de mai à mai. De mai 2021 à mai 2022, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le pouvoir d'achat des Français?
C'est vrai que tout augmente sauf les salaires. Les prix de produits, le prix des produits de première nécessité, les carburants, tout augmente. Nous, on propose deux choses. Il faut, d'abord, je l'ai dit, évidemment, augmenter les salaires. Nous voulons augmenter le SMIC à 1500 euros net par mois immédiatement.
Et comment on fait?
Comment on fait? Je vais vous le dire. D'abord, on partage la richesse parce que pendant la crise, les ultra riches se sont énormément enrichis alors que les plus pauvres s'appauvrissaient. Il y a aujourd'hui de l'exil fiscal. Il y a aujourd'hui un certain nombre de grandes fortunes indécentes. On limite les écarts de patrimoine au-delà de 12 millions d'euros. Est-ce qu'il est décent et normal de vivre que des gens qui ont plus de 12 millions de patrimoine interdisent parce qu'ils ne partagent pas la richesse à d'autres de bénéficier d'un SMIC à 1500 euros ou d'un minimum vieillesse qui permettent juste de se nourrir dignement. Donc déjà, c'est ce qu'on fait, on augmente les salaires. Et puis ensuite, on bloque les prix. On bloque les prix des produits de première nécessité, par exemple les carburants. C'est pas normal qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller travailler, vous devez choisir le matin entre faire le plein de votre voiture pour aller bosser et nourrir vos gosses le soir parce que vous n'avez plus les moyens de faire les deux. C'est le cas d'une dame que je rencontrais encore ce matin à Limay qui m'expliquait ça. Donc elle ne pouvait plus offrir à ses enfants deux repas par jour parce que elle devait faire le plein de sa voiture pour aller travailler tous les matins avec un salaire de misère. On peut bloquer le prix de l'eau et de l'électricité, des premiers mètres cubes ou des premiers kilowattheures nécessaires à la vie digne. Voilà, il faut donner à nos concitoyens, ils demandent de la dignité et du respect, ils ne demandent pas à être milliardaires. Il n'y a que dans la tête de M. Macron qu'on rêve d'être milliardaire. En réalité, on veut pouvoir vivre dignement de son travail et c'est ce que nous proposons avec ce projet politique.
Alors, je vais vous poser une question un peu plus concrète. Prenons un commerce du centre-ville, indépendant, petit commerce. Comment, parce que bon, quand on paye 1500, en général, on redonne 1500 en charge sociale. Enfin, on va faire 50-50. Hein, on va faire
en cotisation sociale. Je ne veux pas nous arrêter parce que
c'est
ce qui nous permet de financer notre santé, nos retraites.
Non, mais bien sûr.
On a besoin des cotisations sociales. Non, parce que j'entends un discours qui est le discours de aujourd'hui de la droite. J'entendais, je ne sais plus quel représentant de la Macronie ce matin à la radio qui disait il faut baisser les charges, il faut baisser les charges. Qu'est-ce qui nous garantit après de la protection sociale si on réduit à peau de chagrin les cotisations sociales? Rien du tout.
Donc 1500 euros, ouais. Charge qu'on... Enfin, on augmente aussi les charges sociales avec les 1500 euros. Ah
bah, ça fera plus de cotisations sociales, donc ça fera plus de rentrées aussi pour nous protéger collectivement. Mais après, évidemment, ce projet, il vise aussi à aider, à accompagner, parce qu'on redistribuera les richesses, encore une fois, celles et ceux qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi. Et donc, c'est pas un projet contre les petits entrepreneurs, contre les commerçants qui seront aidés, accompagnés évidemment, qui bénéficieront aussi d'un certain nombre de mesures. Parce que quand vous êtes petit commerçant, vous payez aussi votre prix de votre plein d'essence pour aller vous fournir, pour aller faire vos courses, pour aller de votre commerce à votre lieu d'habitation, etc., etc. Et donc, les mesures de redistribution de pouvoir d'achat, elles vont concerner toutes celles et tous ceux qui galèrent aujourd'hui, dont beaucoup de commerçants, vous avez raison, dont beaucoup d'entrepreneurs et d'artisans.
Alors, je connais déjà la réponse, mais je voulais la poser quand même. Que pensez-vous de la réforme des retraites à 65 ans ?
C'est d'une indécence terrible. Les Françaises et les Français, ils ont enfilé pour beaucoup des gilets jaunes pour protester contre une vie qui devenait irrespirable pour beaucoup. Ils ont manifesté, on a été des milliers, des centaines de milliers à manifester contre la première version de la réforme des retraites qui a été abandonnée grâce, malheureusement, au Covid. Nos concitoyens, ils savent que travailler plus longtemps, travailler plus vieux, ça veut dire mourir plus jeune. Et que ça veut dire aussi laisser des jeunes plus longtemps au chômage. Ça, on ne l'accepte pas. Donc moi, je me battrai jusque avec toute l'énergie possible, si je suis parlementaire, contre la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron et pour une retraite à 60 ans avec 40 annuités à taux plein, parce qu'on a le droit de profiter dignement de sa retraite et que plus tôt on part, à 60 ans, c'est raisonnable, on l'a fait pendant des décennies, plus on libère de la place sur le marché du travail pour les jeunes, plus aussi on vit en bonne santé longtemps, toutes les études le démontrent. Donc il ne faut pas, il faut tout faire pour empêcher ce projet, et j'en profite pour le dire, les élections du 12 et 19 juin sont aussi un référendum là-dessus. Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans ou est-ce que vous voulez la retraite à 60 ans ? Vous avez le bulletin de vote de la Nouvelle Union Populaire pour la retraite à 60 ans, vous avez les bulletins de vote Macron et LR pour la retraite à 65 ou 67 ans.
Mais on dit que c'est pas possible de rester à 60 ans, puisque le système fait que... On l'entend aussi, hein, ça, dans les médias.
Alors je vais vous citer, vous voyez, c'est pas la CGT, c'est pas la France Insoumise, c'est pas moi, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui a été créé, je crois... sous le gouvernement Jospin, mais qui a été beaucoup utilisé par le gouvernement Raffarin, de mémoire. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il n'y a aucun problème d'équilibre financier pour nos retraites dans les décennies qui viennent. Donc, que rien ne justifie une réforme des retraites. Encore une fois, le Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme indépendant, c'est des économistes, d'ailleurs, plutôt de droite en réalité que de gauche. Bon, ils disent ça. Et donc, la réalité, c'est quoi ? C'est que M. Macron veut faire cette réforme des retraites pour faire les poches des retraités, pour faire les poches des Français, pour financer autre chose. Mais dans ce cas-là, qu'ils le disent et qu'ils l'assument. En l'occurrence, on ne fera pas croire qu'il y a aujourd'hui une nécessité de réformer les retraites. Et on a vécu pendant des décennies avec la retraite à 60 ans. Ça s'appelle du progrès social. C'est important. On est un pays riche qui n'a jamais été aussi riche de son histoire. On est une puissance mondiale. On doit pouvoir vivre dignement, tout simplement dignement.
Allez, une question d'actualité plus locale. Il y a un projet de maison d'arrêt à Magnanville. Êtes-vous pour ou contre la construction de cette prison à Magnanville ?
J'y suis opposé, fermement, totalement. Je me battrai contre la construction de cette prison pour plein de raisons. D'abord, c'est un non-sens environnemental. On va abîmer, enfin, on va artificialiser des terres et supprimer des terres agricoles. Ensuite, c'est un projet qui n'est pas approuvé par les habitantes et les habitants qui en seraient les riveraines et les riverains. Donc, c'est voilà. Moi, je suis pour la démocratie et la concertation. Il en a manqué cruellement sur ce projet. Et par ailleurs, je pense, si on va un peu plus loin, qu'il y a un peu d'hypocrisie de ceux qui disent pas de prison ici, mais oui, il y a des prisons, comme le député sortant l'a fait. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la priorité de la justice, puisque là, en l'occurrence, il s'agit d'une maison d'arrêt. Donc, pourquoi il y a aussi des maisons d'arrêt qui sont utilisées pendant longtemps ? C'est parce que la justice, elle met trop longtemps à passer, parce qu'on met trop longtemps à instruire un certain nombre de dossiers. Donc, il faut donner plus de moyens à la justice pour désengorger les prisons et pour éviter qu'on soit obligé de rester en maison d'arrêt des mois et des années avant un procès. Donc, là aussi, il faut repenser la justice, rénover les prisons existantes, parce que les conditions d'incarcération aujourd'hui sont indignes. Et là aussi, comme parlementaire, on peut visiter des prisons, on peut aller contrôler ce qu'est aujourd'hui la politique pénale du gouvernement. Moi, je le ferai, parce que même quand on est en prison, tout individu, tout être humain, c'est aussi ça les valeurs morales qui sont les nôtres, a droit à la dignité, et aujourd'hui, l'état de nos prisons est indigne. Donc avant d'en construire, rénovons celles qui existent et donnons des conditions de vie dignes à celles et ceux qui purgent leurs peines, qui doivent les purger, évidemment, mais qui ont aussi droit, comme tout être humain, comme tout individu, à la dignité.
Alors nous allons maintenant revenir sur votre programme en commençant par le temps de travail. Si vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, vous voulez le passage aux 32 heures dans les métiers les plus pénibles. Alors c'est plus 35, hein, là, 35 heures par semaine, c'est 32 heures. Au début pour les métiers les plus pénibles, puis après une généralisation après négociation sociale,
oui, dans la négociation et la démocratie, évidemment. Je crois que c'est un vrai choix de société. Vous savez, la dernière fois, quand on regarde là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. L'INSEE, on peut pas dire que ce soit un institut de gauche ou noyauté par la CGT ou la France Insoumise. L'INSEE nous dit que la dernière fois qu'on a créé très massivement des emplois dans ce pays, plusieurs centaines de milliers, c'est les 35 heures avec Martine Aubry. Donc, pour on peut travailler mieux, moins et tous. Le partage du temps de travail, il donne du temps, il donne de la liberté aux citoyennes et aux citoyens. Il permet aussi de créer plus d'emplois et de partager le travail pour travailler toutes et tous. Et comme, évidemment, on le fait sans perte de salaire, c'est un progrès, y compris à la fin du mois sur la fiche de paye.
Alors, vous voulez également instaurer la 6e semaine de congé?
Oui, le partage du temps de travail, vous savez, c'est pas que sur la semaine, c'est...
Donc on travaille 32 heures et on a 6 semaines de congé.
Oui, c'est le sens de l'histoire, vous savez, parce que tout à l'heure vous disiez il faut tenir compte des réalités, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui notre productivité, elle a augmenté depuis des années. On produit en une heure de travail beaucoup plus que ce qu'on produisait en une heure de travail il y a 20, il y a 30, il y a 40 ou 50 ans. Donc il faut que cette hausse de la productivité qui est liée à notre système de formation, d'éducation, qui est liée à la compétence et à la qualité des employés, des salariés, des ouvriers de ce pays, bah, faut qu'il soit partagé. Il peut pas se traduire que par des dividendes supplémentaires pour les actionnaires, il doit aussi se traduire par du progrès social pour les individus. C'est le sens de l'histoire, c'est en tout cas à chaque fois que la gauche a été unie et a gagné dans ce pays, elle a partagé, elle a réduit le temps de travail pour qu'on vive mieux et pour qu'on travaille mieux, moins et tous.
Alors vous voulez également, dans votre programme, garantir un emploi stable à chacun. Comment on fait ? C'est-à-dire pour trouver un emploi tout court ?
Oui, il y a plein de... Il faudra une émission entière, mais je peux vous donner quelques exemples. D'abord, je vais vous parler de la transition écologique, on en parlait tout à l'heure. On sait aujourd'hui qu'on a, en quelques mois, en quelques années, des changements majeurs à opérer sur notre modèle économique, notre modèle de production, nos infrastructures, toute la société doit se tourner vers la lutte contre le réchauffement climatique, qui est le plus grand péril auquel a été confrontée l'humanité dans son histoire. Donc on va devoir investir des centaines de millions d'euros dans la transition énergétique. Ça veut dire des emplois, et des emplois locaux et durables, parce que ça veut dire qu'on va devoir rénover nos logements, ça veut dire qu'on va devoir, par exemple, construire un certain nombre d'infrastructures nouvelles, parce que ça veut dire qu'on va devoir rénover aussi nos bâtiments publics pour mieux les isoler, pour faire des économies d'énergie, etc., etc. Donc ça, par exemple, ce sont la transition écologique, des centaines de milliers d'emplois durables à court terme.
Alors, puisque vous parlez d'écologie, justement, dans votre programme, vous voulez inscrire dans la Constitution la règle verte. Qu'est-ce que la règle verte ?
C'est de dire qu'il n'y a pas une politique publique qui peut être menée si elle nuit à la cause du climat. Et je le dis, là, on n'a pas le temps d'attendre.
C'est pas déjà le cas maintenant, nous, les nouvelles constructions, des normes un peu plus drastiques.
Il y a quelques normes, mais vous avez, d'ailleurs, si cette règle existait, vous n'auriez pas eu le gouvernement français condamné à deux reprises par la justice du pays pour inaction climatique. Et nous ne serions pas en retard sur les objectifs des accords de Paris. C'est-à-dire que la France, les accords de Paris sont donc passés à Paris, comme son nom l'indique, la France ne respecte pas ses objectifs. Mais là, on voit bien en plus l'urgence dans laquelle on est. On n'entend plus les oiseaux. Moi, je me souviens que quand même, on allait se poser là, comme une journée comme ça dans le jardin, on entendait plein d'oiseaux, on voyait une faune, on voyait une biodiversité qui s'exprimait. Aujourd'hui, on la voit plus. On a eu là, au mois de mai, un dôme de chaleur pendant plusieurs jours qui était insupportable et suffocant à bien des égards. Donc, on voit qu'il y a une urgence à agir. Donc, il faut conditionner toutes les politiques publiques à ce qui est bon pour le climat. Et par ailleurs, moi, je crois que ce qui est bon pour le climat est bon pour l'emploi, comme je vous l'ai démontré juste avant, puisque agir, transformer la société pour lutter contre le péril climatique, c'est créer des emplois durables et c'est apporter du progrès à toutes et à tous.
Vous voulez également développer les transports publics écologiques et repenser la mobilité individuelle. Les bus électriques, ça existe déjà. Les trains, ça pollue moins que les camions.
Pas partout. Les bus électriques, d'abord, il faut aider les collectivités locales. Il faut les accompagner. Il faut leur permettre de changer leur parc de véhicules. C'est très lourd, c'est très coûteux. Donc là aussi, il faut que la puissance publique joue son rôle. C'est la planification écologique. Puis sur les trains, enfin, ce gouvernement, il a fermé des petites gares et fermé des lignes. Et j'aime pas qu'on dise des petites lignes, parce que ce sont des lignes du quotidien. Et qu'on voit que sur certaines lignes, l'offre de transport quotidienne, c'est réduite et c'est même parfois dégradé en termes de conditions de transport. Tous les jours, vous avez des gens qui témoignent de wagons bondés, etc. Bon, moi, il se trouve que quand je suis allé voir ma grand-mère, si vous voulez que je vous raconte tout, un week-end, je prends le train parce que je pense que c'est mieux, parce que c'est plus pratique. Pas de place assise pendant une heure et demie. Ça veut dire que quand j'explique à ma grand-mère de 90 ans qu'elle ne peut pas prendre le train pour aller faire ses courses parce qu'elle est pas sûre de pouvoir être assise, ça n'incite pas à prendre les transports. Vous voyez, il y a des choses comme ça, là aussi, où ce gouvernement, il a fait beaucoup de parlotte, mais en réalité, il n'a pas agi pour le climat et pas agi pour les transports du quotidien. Et on sait dans notre territoire qu'on a un grand besoin de transports du quotidien efficaces, pertinents, ponctuels et à bas coût.
Passons à un autre sujet de votre programme, la relocalisation des produits essentiels à la vie de notre pays. Alors, comment peut-on relocaliser ? On en parle depuis le Covid, la relocalisation. Hein. On a vu ça avec les masques, etc. Et dans le Mantois, un exemple, la délocalisation de l'usine Renault-Flins, qui ne produira plus de voitures en France. Ni enfin à Flins, et qui sera délocalisé dans un autre pays. Alors, comment on fait pour relocaliser ?
Il y a deux choses. Il y a d'abord, comment on empêche les délocalisations à l'extérieur de l'Europe ? Ça, eh bien, en fait, on arrête de signer des traités dits de libre-échange, qui sont en réalité des traités antisociaux, anti-environnementaux, qui font qu'il est moins cher et plus simple pour un certain nombre d'entreprises de se fournir, ou pour le secteur commercial, de se fournir en poulet aux hormones australien, ou que pour avoir une étagère, votre bois, il a été fait en Europe, ensuite il est parti pour être fabriqué le meuble en Chine, puis il est revenu, etc., etc. Et donc c'est un non-sens environnemental et social. Et où évidemment, on peut pas concurrencer dans ces règles-là, quand c'est la loi de la jungle, quand c'est le marche ou crève économique, on ne peut pas concurrencer des pays où les droits sociaux sont inexistants. Et nous, on défend les droits sociaux. Donc d'abord, on arrête de signer ces traités, le TAFTA, le CETA, etc., qui sont scandaleux et qui organisent le dumping et qui organisent les délocalisations. Et puis à l'intérieur de l'Europe, eh ben, on se bat, et c'est aussi le sens de notre projet européen, pour une harmonisation sociale par le haut. C'est-à-dire qu'on arrête de se faire concurrence entre pays européens et qu'on aligne les standards sociaux, environnementaux, sur les pays qui traitent le mieux leurs salariés, leurs droits sociaux, et qu'on construise ensemble une Europe sociale.
Si les pays sont pas d'accord, par exemple, prenons des Polonais qui sont dans le bâtiment, ils sont payés moins cher, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. Et si on dit à la Pologne, maintenant, hein, tu vas te mettre sur nous.
Mais,
enfin, tu vas te mettre à notre niveau.
On l'a fait pour un certain nombre de droits et d'obligations en Europe. On l'a fait sur les questions de droits de l'homme. On l'a fait sur les questions d'égalité. On doit être capable de le faire sur la question sociale. Il y a une urgence aujourd'hui. Il faut mener un rapport de force. Moi, je vous dis pas que ce sera simple. Mais nous avons, je crois, si on a Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, une forte tête, quelqu'un capable d'aller à la table du Conseil européen et de tenir pour la France une position résolue, ferme et solidaire aussi de celles et ceux qui, en Pologne, en Allemagne, en Grèce, subissent les politiques néolibérales, subissent les politiques d'austérité, parce qu'en réalité, tous les salariés d'Europe subissent aujourd'hui une orientation politique qui n'est pas la bonne.
Alors, dans votre programme, vous voulez éradiquer, alors c'est votre mot, hein, vous avez des mots forts, éradiquer la pauvreté.
Oui. Ben, je crois que c'est possible. Je crois que la misère est un choix politique. Moi, je fais de la politique parce que je pense qu'on peut changer les choses. Si je considérais qu'il n'y a qu'un chemin possible et que finalement, on fait ça pour du théâtre, pour du jeu ou pour des places, je ferais autre chose. Voilà, ça ne m'intéresserait pas. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, parce que je le disais, notre pays est un pays riche, la possibilité de partager la richesse et d'éradiquer la pauvreté. Il y a plein de pistes sur la table. D'abord, nous proposons une garantie d'autonomie, c'est-à-dire, je prends l'exemple des jeunes, parce qu'on a vu pendant la crise ces jeunes qui allaient faire la queue pour se nourrir. Et quand on voit comment une société traite sa jeunesse, ça en dit long sur l'avenir qu'elle se promet à elle-même. Avec la garantie d'autonomie, 1063 euros par mois. Pourquoi 1063? Ça correspond au seuil de pauvreté. On considère qu'il n'y a aucun jeune ou aucun retraité, puisque on le propose aussi pour nos aînés, qui ne puissent vivre avec moins que le seuil de pauvreté, c'est-à-dire ce qui permet de vivre dignement. Et on galère quand même quand on vit avec 1063 euros par mois. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, aux jeunes, vous pourrez choisir. Si vous faites des études, bah vous pourrez les faire sans avoir à vous salarier à côté. Si vous voulez conquérir votre liberté, votre autonomie, et que vous galérez à trouver un travail, eh bien vous aurez ce filet de sécurité qui vous permet de trouver un travail et pas, par ailleurs, de ne pas être obligé d'accepter le premier travail venu qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez faire, à vos savoir-faire, ni à votre lieu de vie ou là où vous voulez vivre et construire votre vie. On veut permettre à chacune et à chacun de conquérir sa dignité et son autonomie.
Il reste 2 minutes. Ouais. J'ai 2 questions. Dans le domaine de la santé, vous voulez... Eh bien, lutter contre les déserts médicaux, comme partout en France. Alors, quels seront les leviers que vous pourrez lever? Parce qu'alors là, à toutes les élections, on entend ça.
Ouais, donc déjà, faut arrêter avec la règle absurde du numerus clausus pour les médecins. Ensuite, il faut obliger.
Ça, c'est fait.
Mais il faut accélérer un certain nombre de choses. Il faut financer et accompagner la construction de maisons médicales. Il faut aussi, penser, réfléchir à une obligation d'installation des médecins généralistes ou à des incitations plus fortes pour qu'on garantisse à tous les citoyens qu'il y ait la capacité à se soigner près de chez soi. Je voyais encore une dame hier qui m'expliquait qu'il lui fallait, elle était à Mantes, la ville, qu'il lui fallait faire 3 quarts d'heure de bus pour aller voir son généraliste parce qu'elle n'avait pas trouvé à côté de chez elle. C'est pas possible. On peut pas vivre aujourd'hui dans une région comme la nôtre avec des déserts médicaux. Ça, pour le coup, c'est vraiment... Puis il faudra aussi investir dans l'hôpital public parce qu'on a aussi besoin de l'hôpital public et recruter des soignants supplémentaires et traiter mieux celles et ceux qui aujourd'hui nous soignent, qui sont maltraités par ce pouvoir.
On termine par une mesure phare de votre programme qui était également une mesure phare de Jean-Luc Mélenchon, le passage à la 6e République. C'est quoi le passage à la 6e République? Qu'est-ce que ça va changer?
Alors en un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Il nous reste une minute.
C'est qu'on va respecter les citoyennes et les citoyens. Depuis 5 ans, nos compatriotes sont méprisés et insultés par Emmanuel Macron. J'ai pas besoin et j'ai pas le temps surtout de vous citer toutes les phrases blessantes, tous les mots blessants qu'il a eu à l'égard des Françaises et des Français. Eh bien, faire la 6ème République, c'est remettre les citoyennes et les citoyens au cœur de la politique, au cœur du débat public, au cœur de la démocratie. C'est dire qu'ils pourront choisir. Et moi, je veux faire un Parlement populaire de circonscription pour que, comme député, non seulement je sois obligé de rendre des comptes à des citoyennes et à des citoyens, à toutes celles et à ceux qui le voudront, aux associations, aux syndicats, aux partis politiques, mais aussi à tous les citoyens qui librement veulent y venir, qu'ils me demandent de rendre des comptes sur ce que je vote, sur ce que je fais au Parlement, et je serai un député présent à l'Assemblée nationale. On en a besoin. Et puis aussi sur l'usage qu'on fait des deniers publics quand on en a l'usage, je crois que c'est important. Et puis pour construire ensemble des projets de loi, parce que les citoyennes et les citoyens, ils sont pas là par intermittence pour tous les 5 ans donner leur avis et se taire entre deux. Ils veulent pouvoir dire ce qu'ils veulent pour le pays, pour l'avenir de nos enfants, pendant les mandats. Vous savez, quand on est élu pour servir les autres, pas pour se servir. Et c'est à nous d'être contrôlés par les citoyens et pas à nous de faire la leçon ou de sermonner les citoyennes et les citoyens comme l'a fait La République En Marche et la majorité depuis 5 ans.
Merci Benjamin Lucas d'avoir accepté notre invitation. Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à 13h et à 18h30. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. Demain, à 7h30, c'est Edwige Gervieux, candidate de la majorité présidentielle Ensemble, qui viendra répondre à nos questions. Et à 8h30, ça sera Michel Vialet, le député sortant LR, qui sera notre invité.
BPM, élections législatives 2022.